Bonjour chères auditrices et auditeurs des Buissonnières qui fêtent le printemps en accueillant Brigitte Nadal, fidèle de l'atelier d'écriture du jeudi à Bédarieux. Brigitte qui va nous parler de Louisa Paulin. Bonjour Brigitte.
Bonjour Virginie, bonjour Victor.
Louisa Paulin est une figure capitale de la poésie occitane de la première moitié du siècle dernier.
À une époque où règne la confusion, où coule le sang, où on ordonne le désordre.
I am naked all the time. I am burning inside. I am a voice no one can hear. I am drifting for the years.
De l'intimité à la révolte, de l'enfance à la vieillesse, entre rire et larmes, la vie comme elle s'écrit. C'est tous les mois, dans les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, présentée par Virginie Lounoni. Et pour commencer, Brigitte, puisque c'est toi qui m'as fait découvrir cette immense poétesse, est-ce que tu pourrais me raconter ce qui t'a fait flasher ?
Je l'ai découverte lors de mon apprentissage de la langue d'oc, de l'occitan, au CFPO à Béziers. Et c'est par la suite que j'ai fait des recherches, parce que son histoire m'a intriguée. C'est une femme qui a marché toute sa vie, et elle était courte, sa vie, qui a marché toute sa vie sur le fil tendu entre la vie et la mort. Elle a eu une maladie mystérieuse en ce début de XXe siècle, un diagnostic qui n'était pas posé. C'est une maladie, une neuropathie amyloïde, dont un mal inconnu, qui se manifeste généralement après la trentaine et s'attaque au système nerveux, et promettant à ceux ou à celles qui en est atteint une paralysie totale, la cécité et la mort.
Un charmant programme.
Voilà, donc je suis allée faire...
Et c'est une maladie génétique.
C'est une maladie génétique et héréditaire, on s'en est aperçu après. Et c'est pour ça que Louisa Paulin, dans sa généalogie, a perdu des parents proches dans la force de l'âge, notamment un frère, qui est mort un peu plus à la cinquantaine, un petit frère qui est mort à 3-4 ans. Elle a eu une sœur Caroline, c'est autre chose qui a fait qu'elle n'a pas grandi avec. Voilà, cette femme est née à Réalmont en 1888 et elle a une enfance heureuse et tout la prédispose au bonheur.
Réalmont, pour situer, c'est dans le Tarn.
Réalmont, c'est dans le Tarn. C'est au milieu des terres agricoles, 3000 habitants.
Pas loin d'Albi.
Pas loin d'Albi, bon, voilà. C'est entre Mazamet et Albi.
D'accord.
Voilà. Et donc, tout la prédispose au bonheur, sauf que la vie l'attend. Enfin, la mort l'attend. Donc, elle se marie à 19 ans avec un instituteur, Louis-Baptiste Calcel. Et elle a par lui et avec lui trois enfants. D'abord une première grossesse avec un petit haut André, voilà, un petit haut qui meurt à 2-3 ans de cette maladie. Ce qu'il y a, c'est que
on sait pas très bien.
Voilà,
en fait.
On sait pas très bien, voilà. Et donc, elle l'avait mis en nourrice parce qu'elle est institutrice et qu'elle enseigne. Donc, elle l'avait mis en nourrice parce qu'il fallait travailler. Et pendant qu'il est en nourrice, le gamin, on ne sait pas les détails, mais le gamin meurt. Bon. Elle a deux autres enfants, c'est-à-dire des jumeaux. Qui Fernand et Pierre, alors je crois que je me suis trompée, c'est Pierre d'abord, puis André et Fernand, et les deux jumeaux ont la même maladie et meurent aussi, sitôt que nés. Elle n'a pas le temps de les aimer comme de développer la maternité et qu'ils meurent. Donc elle est atteinte vraiment dans sa chair. Elle divorce, parce que de toute façon, je ne vois pas qui pourrait résister à ça. Elle divorce Et elle s'en va enseigner à Tulle, dans le Limousin.
En Corrèze.
En Corrèze. Et elle essaie de se reconstruire, si on peut parler comme ça. Elle essaie de se reconstruire, mais et c'est là qu'elle va commencer à écrire. Elle est jeune, hein, donc elle a 27-28 ans. Et c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à écrire de la poésie, inspirée par une espèce de naturalisme, la campagne, c'est très beau, c'est des châtaigniers, c'est de la terre de bruyère, c'est des genêts, donc il y a des couleurs, voilà. Elle écrit et elle tient un journal parce que, alors elle doit sentir, je pense que le corps, il doit sentir... que les choses ne vont pas durer, je ne sais pas, il doit y avoir une intelligence corporelle. Donc elle tient un journal, et elle aime bien d'ailleurs, elle parle beaucoup elle lit beaucoup le journal des autres, des écrivains qui écrivent comme ça, qui font quelque chose d'épistolaire, donc où ils se parlent de l'un à l'autre, tout. Ça la nourrit. Et dans ce journal que j'ai là, elle décrit... Ces journées qui sont faites d'enseignement, parce qu'elle enseigne toujours, et qui sont faites aussi de concerts. Elle aime beaucoup la musique. Elle se promène à travers la campagne. Mais vraiment, elle est dans un environnement pictural et musical. Et elle va écrire ce qu'elle ressent, ce qui fait que quand elle écrit... On pourrait croire qu'elle peint. Ça pourrait être Nymphéa ou voilà. On pourrait croire qu'elle peint. Et elle comprend la musique. Je pense qu'elle est très musicienne. Et ça lui donne un rythme. D'ailleurs, elle écrit, quand elle écrit un livre, un recueil de poésie qu'elle envoie, c'est rythme et cadence. C'est pas pour rien. Il y a quelque chose de très musical. Voilà. Donc, voilà un petit peu le résumé de sa vie. Et pour mieux entrer dans son œuvre, j'ai pris une des premières pages de son journal pour parler de cette femme qui est gay, on dirait que c'est tragique, mais elle est gay, elle essaie, à mon avis, de donner un peu le change.
Donc, l'humour et la politesse, oui, de l'espoir.
Oui, et elle dit « je ne travaille que quand je joue ». C'est-à-dire, quand je prends mes bouts de papier, il y en a dans tous les tiroirs, et dès que je mets du bleu sur du blanc, je travaille. Elle commence ce journal le 31 mai 1923, il est 4 heures de l'après-midi, elle note même les heures. C'est parce que je n'ai pas le temps, et parce que les copies attendent que j'ai la plus vive démangeaison d'écrire. Plus que quiconque, je possède l'art de perdre le temps. Je viens du tiroir de la commode où je cherchais du papier pour écrire ceci et où j'ai trouvé ce que je ne cherchais pas, du tiroir de ma table ventrue, pour y prendre ce bout de ruban mauve pour lier ces feuilles et où j'ai rencontré d'inutiles notes que j'ai inutilement parcourues. Voilà mon art. Il me mène et je muse en tout et partout. Aussi ai-je envie de rire quand j'entends dire que vous êtes active. Où trouvez-vous le temps de faire tout ce que vous entreprenez? Je ne le trouve pas, je le prends. Je vais vite à ce qui m'ennuie et me prélasse à ce qui m'amuse. Mais comme très peu de choses m'ennuient, je me prélasse beaucoup. Voilà son humour. Et tout son journal, elle ne décrit pas l'enfer qu'elle vit, parce qu'elle commence là, dans cette période de son journal, elle commence à être fatiguée. Alors, bien sûr, elle n'a pas le nom de la maladie, elle ne sait pas, le diagnostic n'est pas posé.
Mais elle sait qu'elle l'a.
Mais elle sait qu'elle est fatiguée, elle est irritable.
Elle sait qu'elle a la maladie, oui, qui a emporté ses proches.
Oui, 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 voilà. Bah, quand on a des proches qui meurent en majeure partie, père aussi, hein, je veux dire, à la force de l'âge, on se pose des questions. Et je pense qu'on s'habitue à l'idée de ne pas vivre très vieux, déjà. Et en plus, si la fatigue s'y ajoute... J'ai choisi un poème qui s'appelle « Mesure ». J'ai le désir ce soir d'un bonheur inconnu qui ne peut être en toi, ô mon pauvre village. Tu n'es à mes yeux là qu'un vieux livre d'images, trop longtemps feuilleté et trop longtemps relu. J'ai le dégoût ce soir de ta vie lente et morne, de ta plaine endormie, de ton horizon clos, de tes noires maisons accroupies au repos, étroitement serrées en d'immuables bornes. Je te voudrais ouvert comme un port au matin, tout frissonnant d'espoir, de bateaux en partance, tout chanterait alors l'heureuse délivrance du joug quotidien dans l'azur du lointain. Je te voudrais brillant comme une ville heureuse, de guirlandes de fleurs parant ces folles nuits, enivrées de chansons, de rires et de bruits, et nourries chaque jour de vie neuve et joyeuse. Mais tu es là, terne et fermée, toujours pareille, ancrée dans tes sillons, tes prudentes routines, à peine curieux des grandes villes voisines, avide seulement de pluie et de soleil. Tu es fait pour le pain, pour le vin, pour la laine, pour des bonheurs précis, limités et certains. Ton horizon étroit replie les désirs vains et limite les joies au cercle de la plaine. Tu bornes ton destin au rythme essentiel, à la faim, à la soif, aux humbles servitudes qui t'imposent la loi des vieilles habitudes et mesurent ta vie à la courbe du ciel. Et c'est pourquoi, toujours, ô mon pauvre village, ton austère beauté me ramène vers toi. De nouveau, tendrement, j'aime ta dure loi et les feuillets usés de ton livre d'images. Il y a toujours un petit peu, un petit fil de sens critique et d'ironie, un petit peu, mais c'est pas de l'ironie railleuse, c'est fin, quoi. Et c'est ce que j'aime, c'est pas mièvre, quoi, c'est pas, on s'affale pas dans un truc un peu sentimentalo, dégoulinant, quoi, c'est vraiment, voilà. Donc, c'est ça qui m'a plu. Je continue avec peut-être une note autobiographique. Alors, c'est elle qui fait sa note autobiographique. Au moins, c'est mieux d'avoir sa parole. Alors, elle dit d'elle-même, « Je suis née le 2 décembre comme Francis James, un dimanche comme Mélisande et en 1888 comme beaucoup d'autres gens. Mon pays est l'albigeois et ma langue maternelle n'est pas le français, mais la langue d'oc. C'est en langue d'oc que j'ai entendu les premiers vers, ceux de nos chansons populaires. Et j'ai gardé de ma petite enfance le sentiment que la poésie n'est que chant et qu'elle ne saurait être le privilège de quelques-uns mais le bien de tous, comme nos chansons populaires et des psaumes de nos offices. C'est peut-être pourquoi j'ai toujours rêvé d'écrire des poèmes avec les mots de tout le monde, avec les mots de tous les jours, usés mais riches de leur éternelle charge de misère et de joie. C'est ce que j'ai tenté. Et je rêve aussi d'un temps où on ne pourrait, où on pourrait non pas vendre des poèmes, mais les donner comme des fleurs des champs que chacun peut cueillir.
C'est une déclaration politique, hein.
Oui. Oui, elle est assez engagée. D'ailleurs, fait, hein. Elle parle beaucoup de Jaurès, puisqu'elle va à Carmaux. Mm-hmm. Quand Jaurès... quand il
fait son discours de Carmaux. Non.
Quand il dresse la statue de Jaurès après sa mort.
Ah oui.
Voilà. Donc, et elle parle de ses yeux bleus. Le bleu va la suivre toute sa vie.
C'est le bleu de l'encre.
C'est le bleu de l'encre, le bleu des enfants, le bleu des yeux de Jaurès. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pour elle, tout fait sens. Voilà, donc je suis partie après sur son beau voyage. Elle dit « Rivière, rivière, arrête-toi, emmène-nous dans ton voyage, nous les gens du pauvre village, les chiens, les poules et les oies. Nous sommes là de notre terre et nous voulons voir du pays. Embarque-nous, grands et petits, pour faire le tour de la terre. » Nos maisons seront des bateaux et nos bêches seront des rames. Nous pendrons des robes de femmes comme voile à des rameaux. Nos grands bœufs bairront les barques. Nos ânes chanteront l'amour. Nos lapins joueront du tambour et nos araignées de la harpe. Rivière, rivière, nous sommes lasses de te voir prendre les nuages et d'emporter dans tes voyages le ciel et tout son tralala. Nous, on est collés à la terre, dans le travail et le fumier. À présent, on veut s'en aller et quitter la vieille misère. Qu'on navigue enfin une fois avec des mains à ne rien faire. Grands et petits, pères et mères, bercés dans ta robe de soie. Et donc, elle se retrouve à Tulle à enseigner. D'ailleurs, c'est une institutrice qui est aimée de ses élèves. Elle est belle, c'est une femme très, très séduisante. Et elle est aimée, donc ça doit l'aider beaucoup. Et c'est cette époque-là, c'est l'époque où elle commence à écrire, mais où elle commence aussi à fatiguer. Et on dirait qu'il y a une espèce de vase communicant entre cette fatigue qui s'installe et
désir d'écrire.
Et ce désir d'écrire et de laisser trace et de peindre et d'accéder à la poésie. Voilà. Et le troisième acte, donc, c'est la maladie qui éclate et qui prend un cours inexorable. Et sa production poétique croît de plus en plus. Donc, elle retourne à Réalmont et au village donc de son enfance. Oui. Elle ne travaille plus. Ils l'ont mise dans une espèce de retraite anticipée. Elle est jeune. Hein,
et, elle a quel âge, là, à peu près?
Alors,
une quarantaine d'années?
Là, c'est une quarantaine d'années. Mmh. Voilà. Puisqu'elle meurt, elle a une cinquantaine d'années. On ne va pas chipoter sur les... Je crois qu'elle a 56 ans quand elle meurt. Mmh. Donc, et c'est à Réalmont, dans son village natal, qu'elle va être le plus productive hein, au niveau de son art. Parce que c'est un art quand même. Hein. Elle est artiste, à mon avis. Elle est plus qu'écrivain, elle est artiste. Et là, elle posera son dernier souffle. Voilà. Et à Réalmont, elle voudra revenir, approfondir sa langue occitane. C'est sa langue maternelle, donc elle l'a. Mais elle ne l'a pas, elle l'a pas avec la grammaire, avec le... Voilà. Donc, elle fait appel au service et au conseil. Quand on a un père Bosse, alors, je ne pouvais pas passer sans dire strophe
oui.
ou deux
ah,
en
oui.
occitan.
Ah oh, oui, on t'écoute.
Et c'est la Bressairolo per la Nenio. Et c'est une berceuse donc pour enfants. Alors, c'est cruel parce que, voilà. Diren pas a la nostro Nenio que y a tant d'estelo al cel. Voudria pas mai cluca son el. Diren pas a la nostro Nenio que son tant d'estelo al cel. Direm pas a la nostro Nenio qu'en saval nu cal tan plura se voudria pas de rebeia. Direm pas a la nostro Nenio qu'en saval nu cal tan plura. La première strophe, nous ne dirons pas à notre petite fille qu'il y a tant d'étoiles au ciel, elle ne voudrait plus fermer son œil. Nous ne dirons pas à notre petite fille qu'elles sont si nombreuses les étoiles du ciel. Et nous ne dirons pas à notre petite fille qu'ici-bas, il nous faut tant pleurer. Elle ne voudrait pas se réveiller. Nous ne dirons pas à notre petite fille qu'ici-bas, il nous faut tant pleurer.
Et donc, Louisa, c'est une femme.
Hein. Voilà.
J'imagine que cette énergie farouche de sortir du sentier a dû la mener loin sur son destin.
Alors, c'est une femme. C'est une femme qui est obligée, qui est atteinte dans sa chair, donc dans ce qu'elle a de plus cher et dans sa chair. Et elle va refuser toute autre expérience sentimentale, toute autre histoire d'amour. Quand elle va se permettre des pensées amoureuses, ça sera toujours sur la base d'une entente intellectuelle avec les hommes ou artistique. Et souvent des amours platoniques, donc. Et de l'amour, elle dira ceci. Ça s'appelle le bohème des bonheurs perdus. Non, ce n'est pas ta jeunesse que je pleure. J'aurais voulu t'aimer à l'heure où la vie blesse, à cette heure où l'on sait enfin que l'on est seul. Oui, c'est alors que je serais venue vers moi, donc que je serais venue, moi, l'inconnu qui dormait dans ton cœur. J'aurais eu ton regret pris au filet du rêve. Quelquefois, quand tu aurais eu soif d'eau bleue, j'aurais eu la caresse de tes mains sur mes yeux. Quelquefois, quand tu aurais eu faim de tendresse. Assise à tes pieds, dans ton ombre, j'aurais été la timide sœur de tes songes. Et tu les aurais laissés baiser sur mon front. J'aurais eu le secret frisson de ta voix, prise à la magie d'un poème. Alors j'aurais su que tu m'aimes, et tu aurais su que je t'aime, à ma joue effleurant tes doigts. Alors, je voulais parler de sa vie de femme, parce que il y a un désenchantement quand même qui est là. Et dans le poème « Chant de noces », on le lit, ce désenchantement. Ce désenchantement et cette lecture aussi qu'elle a de la difficile vie d'une femme en ce début 20e. Ces femmes qui sont un peu en retrait, à la cuisine ou au champ, voilà. Dont il y a quand même une pointe de critique. Chant de noces, c'est « Danse, danse Marie, c'est aujourd'hui ton tour, dans ta robe de noces, danse, danse Marie. Danse, danse Marie, demain tu t'ôteras la robe des amours. Danse, danse Marie. Danse, danse Marie, tu en mettras une autre, celle de chaque jour. Danse, danse Marie. Danse, danse, Marie, point ne la quittera, nous portons bien la nôtre. Danse, danse, Marie. Danse, danse, Marie, faite de noirs soucis et de chagrins cuisants. Danse, danse, Marie, danse, danse, Marie. L'étoffe en est usée, mais nous mourrons dedans. Danse, danse, Marie.
Parce que dans ces forêts, qui sont dédiées, ça n'est pas un hasard, à Pascal Olivier, déesse, est-il écrit. Pascal Olivier, si on va voir son visage sur Internet, c'était une femme d'une beauté grecque absolument éblouissante. Donc ce poème « Forêt » lui est dédié. Quelquefois, dans la nuit, une bête sauvage galope en mon sommeil, dans les forêts du songe. Et moi, contre son flanc, je vais toute pareille. Rien ne peut arrêter la course fraternelle de nos sabots, unis dans un rythme d'amour. Nous nageons dans le vent, comme dans une eau vive. La neige des torrents porte nos bonds joyeux. Nous traversons les troncs lisses et vaporeux des êtres qui n'ont plus leur densité native. Quelquefois, nous luttons, poitrine sur poitrine, mélangeant nos deux corps ductiles et légers, et nos bouches alors connaissent des baisers lents et silencieux comme ceux des racines. Quelquefois, Nous dansons au repos des clairières qui sont des lacs de lune ou de douceur stellaire. Quelquefois nous courons sur de blancs promontoires dominant des vallées de brouillards accroupis. Nos sabots font un bruit de fin galet d'ivoire comme s'ils résonnaient aux rives de la nuit. Puis l'enivrante odeur d'une source prochaine oriente nos fronts rayonnants de désir. Nous buvons à longs traits la force souterraine et le mystère vif de l'eau à sa naissance. Nous ruisselons de vie allègre et de puissance. Rien ne peut altérer la souveraine aisance de nos corps délivrés du lourd passé humain. Ô lointain souvenir des forêts maternelles qui jaillissent touffues à l'ombre du sommeil, où le corps libéré se souvient de ses ailes, où l'âme jeune et nue, ivre de merveilleux, se rappelle un amour qui enfantait des dieux. Et moi, je veux bien être pendue si ça n'est pas une ode à l'amour entre femmes. Et peut-être, vraisemblablement, une déclaration d'amour.
C'est un poème qui a été écrit en 1939, donc 5 ans avant sa mort.
Oui, voilà. Mais les années 20 étaient passées par là, tu vois, il y avait quand même, dans les années 20, il y a eu un fort mouvement des femmes.
De libération. Mmh. Et petit à petit, donc, Louisa Poulain s'avance vers son dernier souffle. Elle le pose, son dernier souffle, le 23 avril 44, et un de ses amis dira « 7 jours plus tard, elle aurait entendu l'occupant allemand s'éloigner. Mmh. » Parce que Réalmont était occupé, mmh, comme plein d'autres villages. Mmh. Et donc, pour finir, j'ai choisi quelqu'un. C'est le titre de ce poème, « Quelqu'un ». Quelqu'un d'un doigt léger m'a touché à l'épaule. Je me suis retournée, mais il s'était enfui. Peut-être es-tu celui que je n'espérais plus et dont le souvenir confus trouble encore quelquefois le miroir de mes songes. Ou bien, l'ange gardien de mon âme d'enfant, alors que résonnait au jardin du printemps le doux éclat de nos deux rires, je froissais quelquefois tes ailes dans nos jeux, blanches ailes aux reflets bleus, comme tes yeux, comme mes yeux, comme l'enfantine journée. Viens-tu comme autrefois poser mes pieds lacés sur la divine échelle où palpitaient les anges? Nous la sentions vibrer d'amour pur sous nos doigts, mais c'était le temps d'autrefois. Ou bien, es-tu tout simplement celle que chaque jour j'attends, la patiente silencieuse, avec le fil aiguisé de ta faux, dissimulé derrière ton épaule? Est-ce donc en ce soir d'automne et dans sa fragile beauté qu'il faut partir pour l'incertain voyage? Ô mère du sommeil, prends-moi donc par la main, ne faisons pas de bruit et ne troublons personne. Partons comme s'envole une feuille en automne. Elle a écrit ce poème le 7 octobre 1943, quelques mois donc, avant son départ.
Mmh. Mais elle n'est pas partie comme une feuille en automne, puisqu'elle est là.
Voilà, elle est là.
À une époque où règne la confusion, où coule le sang, où on ordonne le désordre.
I am naked all the time. I am burning inside. I am a voice no one can hear. Drifting for the years.
Vous avez écouté Les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, que vous retrouvez le deuxième mardi et le deuxième dimanche du mois sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.
Sorry for my mistakes. I'll take it.